Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 180. Mon nom est Paul Andréau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Il fait beau, il fait chaud, c'est humide, c'est l'été. Et avant de plonger dans le festival le plus ensoleillé de l'année, Pascal ouais. Plante t'a fait un petit rattrapage et tu me teasais, là, tu me disais, tu me lanceras en début d'émission, tu vas être fier de moi.
Fier de moi. Écoute, j'ai vu en rafale Black Panther, je l'avais pas vu.
Ah, bon. On repart-tu dans du Marvel, là? Mais ça, qu'on parle de Marvel. À tous les deux épisodes.
Ben, il faut dire aussi qu'il y a un film de Marvel qui sort à tous les deux épisodes.
Ouais, c'est ça qui se passe, là.
Mais ouais, bon, Black Panther, n'en parlons point. Quiet Place, j'ai trouvé ça vraiment lame, là, pour être bien honnête. Là.
Wow,
j'ai vraiment eu de la misère avec Quiet
Place. Pas Paul qui me drôle sur Facebook que, genre, Hereditary, genre, c'est moins bon, là. Je suis comme, hey, check Hereditary, c'est vraiment bon. Quiet Place, c'est décevant, là.
Non, mais j'ai même pas vu Hereditary. Fait que t'as juste en fait embarqué dans mon piège.
Tu fais juste me troller pour rien, là.
Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, là, toutes les faux jumpscares de marmottes qui tombent d'un plafond, pis tu sais, des affaires comme ça, c'est comme, Pis en plus, moi, tu sais, on en avait déjà parlé au podcast, mais tu sais, les affaires de monstres, souvent, tu sais, ça fonctionne quand il y a du mystère autour des monstres. Dans ce film-là, tu sais, je veux dire, il y a un mystère, disons, autour de la situation, bon, c'est quand même correct. Puis là, tu sais, une espèce de scène d'intro avec un jouet qui fait du bruit, là, bon, vous l'avez vu, là.
Ouais.
C'est pas incroyable, là, bon. Mais tu sais, après ça, t'as la bébite en plein jour, tout ça, puis on dirait que moi, ça m'a complètement, genre, désamorcé toute mon espèce d'intérêt ou de curiosité, on dirait que ça a vraiment joué. Après la bébite, effectivement, bon, on n'ira pas en détail parce qu'on en a déjà parlé, mais elle est quand même intéressante une fois qu'elle est vraiment... C'est soit tu la montres ou tu la montres pas, tu sais, c'est-à-dire... Mais quand tu la montres, tu sais, comme tout ce qui est le rapport, par exemple, à sa faculté auditive, puis comment elle est designée une fois qu'elle est vraiment plus au cœur du récit, là, en fait, je trouvais que ça fonctionnait assez bien, mais pour moi, on dirait que la magie, l'aura, parce que c'est une question d'aura, souvent, un film d'horreur, puis moi, elle était vraiment gâchée d'entrée de jeu, j'ai eu bien de la misère, puis Emily Blunt, pour vrai, là, il y a quelque chose de profondément arriéré dans cette espèce de famille-là, All-American Family, qui survit sur une ferme avec, genre, l'homme qui provide, la femme qui enfante, tu sais.
Mais ils sont d'hommes, là. Ils font des affaires vraiment d'hommes, là. Puis... Je trouve que les codes du film, là, genre, ils changent tout le temps, là, tu sais. Ils vont prendre des petites mousses pour jouer, genre, au Monopoly, mais comme, ils vont, comme, faire la vaisselle dans la maison, puis tout. Puis, vous avez une cave, vous pouvez vous abriter. Pourquoi vous allez pas là tout le temps, genre, au lieu de jouer au Monopoly avec des bouts de tissu, là?
Pis t'sais, désolé de spoiler un peu peut-être là, mais t'sais, il y a comme un bébé qui naît. T'sais,
je veux dire, c'est comme...
Pis t'sais, ça, je veux dire, c'est complètement bâclé là comme scène. Pis t'sais, c'est impossible d'être 100% avec la réalité du film à ce moment-là. Là, t'sais, je veux dire, c'est bien trop expéditif, pis fait à la va-vite, pis tout croche. Pis en plus, pis c'est ça, t'sais, moi, c'est vraiment les espèces de rôles traditionnels d'une famille américaine qui m'a gossé, là, tu sais. Genre, la jeune fille qui veut être impliquée, puis là, elle a un daddy issues parce qu'elle pense que son père l'aime pas, puis là, il va faire des trucs avec son gars, genre, une espèce d'initiation entre hommes, connes, qui sert vraiment à rien, au final. Puis, tu sais, la fille, puis il dit, ah, mais je vais l'inviter la prochaine fois, comme, wait, what? J'ai vraiment trouvé que j'étais constamment en train de me dire, voyons, il y a des humains qui vivent devant un écran, mais... Tout est artificiel, fait pour... Il n'y a rien qui fonctionnait pour moi dans ce film-là. C'est vraiment curieux.
Mais c'est bien tourné quand même, Quiet Place. Là.
Oui.
Aussi, il y a tout ce rapport-là qui est intéressant. Avec, on peut le lire un peu comme une espèce de... Comme si l'Amérique d'aujourd'hui, la génération, tu sais, il y a comme plus de liberté d'expression, puis on nous dit de nous taire, puis de garder nos idées pour nous, puis de pas faire de bruit, puis de prendre notre place, puis de,
tu sais.
Puis là, soudainement, comme l'arme du film, c'est, tu sais, ça serait finalement de répondre aux attaques des autres et de pas avoir peur de, tu sais, d'utiliser sa voix, puis de...
Ouais.
Je pense que ce qui m'a vraiment séduit dans le film, c'est sa simplicité quand même. T'sais,
Oui, tu sais, que l'espace-temps soit très limité, c'est le bienvenu, en fait. C'est cool.
C'est le fun, c'est compétent, c'est bien shooté, puis tout ça. C'est juste, je trouve que c'est juste overrated intellectuellement. C'est pas genre.
Ben, bon.
C'est pas un film d'horreur intelligent, parce que là, faut, tu sais, il y a tout le temps le film de l'année que ouais, tu mets ça, sur un ça. Pédestal parce qu'il est plus intelligent que tout le reste, mais c'est pas lui pour moi cette année, là. C'est vraiment pas puis, ça, puis ouais. Ça a été comme casé, là, du film genre indie, là, qui est plus, ouais. plus travaillé qu'un film, ouais. un film générique, là, mais c'est
indie,
comme...
Indie en collaboration avec Michael Bay. C'est ça. Fait, ça déjà, on dirait que ça répond à certaines questions, tu sais, je sais pas, moi, c'est vraiment les types, là, tu sais, chaque personnage est bien typé dans un rôle qui, oh, en tout cas, puis les putains de scores contemporains, sans personnalité, en strings, là, juste en instruments à cordes, puis, tu sais, en plus, le silence dans ce film-là est intéressant, les moments en silence sont vraiment franchement bien, puis ça arrivait tellement souvent pendant mon visionnage du film que j'étais comme, ah non, la musique arrive, tu sais, comme cue music, là, qui arrive ouais, ouais. à un moment, puis c'est vraiment juste pour taper. C'est comme si on a peur là, que je sais pas, la génération TDAH d'aujourd'hui là, soit comme pas capable d'en prendre, on dirait, puis ça prend haut, ça prend un stimuli. Là, fait que c'est comme, j'ai vraiment l'impression que ça met un pied en avant, deux pieds en arrière, ça essaye des choses vraiment intéressantes. Le concept est cool, on en a déjà parlé. Mais ouais, pour moi, ça a vraiment pas levé. Là.
Mais okay, fait que. Ouais, bon, ça commence bien.
Non, mais. Bon, début d'épisode. Donnez une chance à l'autre, s'il vous plaît. Là. Regardez-là, j'ai vraiment hâte d'avoir votre feedback là-dessus.
Sur Hereditary.
Ouais, ouais,
ça,
ouais.
Ça a l'air franchement bien. Moi, je suis quand même vraiment, vraiment intéressé par celui-là. J'ai vu Isle of Dogs. Bon, Harris, à défaut d'être encore un vieux grognon, là. Ça m'a pas charmé plus qu'il faut non plus. Colin, l'avez-vous vu tous les deux?
Ouais, je suis moins d'accord avec toi, par exemple. Ouais. Tu m'en vas pas de ton bord, là.
Non, je sais. Mais au pire, on peut passer, là, parce qu'on peut aller dans quelque chose de plus positif. Tant qu'à faire ma finale de rattrapage, j'ai vu Annihilation, et c'est de la fucking bombe.
Ben oui,
c'est vraiment sûr. Super. Même que je m'attendais pas à une finale. La finale est genre transcendante. Là.
Ben, il y a une c'est genre de demi-heure. C'est comme le dernier acte. Là.
Oui, oui, oui. Ben, tu sais, disons que le film carbure au mystère. C'est bien, mm-hmm. c'est bien campé. Tu sais, on découvre un peu en pleure d'oignon ce qui se passe au fur et à mesure. Tu sais, c'est une belle ride. Ouais. C'est bien un beau lead de femme aussi, ça c'est intéressant. Tu sais, il y a plein de choses vraiment super bien écrites, mm-hmm. bien compétentes, mais moi vraiment ça puis je ne le révélerai rien évidemment, mais pour moi ça c'est comme ça a basculé dans un, tu sais, c'est passé mettons de très bon à OK là, tu sais, on a peut-être un vrai film de l'année ou top 5 de l'année.
Ça
a comme levé vraiment avec la fin là, je te jure, je le regardais, j'avais la bouche ouverte, j'étais vraiment hypnotisé, omnibilé. Puis je l'ai même pas vu en salle, tu sais, je l'ai vu comme sur ma télé, donc dans des bonnes conditions ish là, mais j'imagine en salle tu devais être comme aspiré par l'écran, le son, l'ambiance.
Ouais, c'est vraiment hypnotique sur grand écran, ouais. c'est vraiment ouais. fou là. C'est ça, j'ai remarqué des gens qui l'avaient découvert sur Netflix puis qui avaient pas trippé, puis j'étais t'sais, je me disais, c'est sûr que les conditions de ce film-là, tu dois être dans une immersion. Là. Tu peux pas écouter ça sur ton laptop dans ton lit en t'endormant. Là, c'est comme...
Mais je pense que c'est parce qu'il faut lui donner une chance. Je pense que le film prend son temps à démarrer. Puis je dis ça, c'est même pas un défaut, là, mais c'est comme un peu un état de fait. Je trouve qu'il place bien ses pions. Puis, il se met en branle comme... Il passe pas de la première à la cinquième vitesse, là, tu sais, je veux dire, il prend le temps, c'est un bon, mais c'est bien, donc, cette patience-là, elle est récompensée, comme si on est vraiment tout attentif avec le film. Donc oui, Paul, mieux vaut tard que jamais, Colin, t'aurais fini par m'avoir, je le regrette tellement pas.
Puis là, tu disais justement, tu sais, trame sonore conventionnelle pour A Quiet Place, mais ça, là-dedans, je trouve qu'il y a vraiment un travail intéressant aussi au niveau musical.
Oui. Ben tout, je veux dire, sound design, encore une fois, surtout dans la dernière portion, il y a vraiment des idées. C'est ça aussi, tu sais, être déstabilisé par un film, tu sais, c'est juste de se faire proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. Puis c'est parce que si tu fais un film avec un concept cool comme A Quiet Place, mais que tu le noies avec tout plein de pathos, puis de clichés, puis des musiques drap, puis tu sais, c'est là où on dirait que ça noie le spark de bonne idée, tu sais. Puis tant qu'à faire, tu sais, t'es-tu un film indie ou t'es pas un film indie? T'es tant qu'à faire, tu t'assumes. Puis j'ai quasiment trouvé qu'il y avait plus de bonnes idées, mettons, musique ou autre. Ben, je parle beaucoup de la musique, ça a l'air, c'est drôle, mais quasiment dans Black Panther, bordel, que Quiet Place, je me serais jamais attendu à ça. Fait que, en tout cas, passons, procédons. C'était mon rattrapage en 4 films. Voilà.
Cool. Sinon, pour nous, pour tous les autres, en fait, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Évidemment, c'est Fantasia. C'est le festival qui accapare un peu toute l'attention.
Le festival 100% cinéma à Montréal.
Oui, tout à fait. Des invités, des projections, toutes sortes de choses, des surprises, des courts-métrages, des longs, des expériences VR. Fantasia, on ne le présente plus. Nous, on est là chaque année depuis très longtemps. Ouais. Rémi, cette année, en plus, tu programmes, tu présentes des séances.
Ouais, c'est cool. C'est plus de responsabilités cette année, mais c'est le fun de rentrer un peu plus au cœur du festival. Puis de, tu sais, l'année passée, c'était vraiment un premier pas, là, mais là je prends mon aise. Puis c'est cool. Là, j'ai animé une séance hier d'un film d'un ami que j'avais rencontré à Bruxelles les deux fois. Deux des fois que j'étais allé, Isaac Esban, qui a présenté Parallèle, puis animé des Q&A. C'est vraiment. C'est pas des trucs que j'ai l'habitude de faire, mais c'est une belle, un beau trip, là, vraiment. Là. Mm-hmm. J'ai aussi la personnalité de présentateur, là, parce que tu t'en rends compte que, tu sais, t'as des séances à Fantasia qui sont animées par Mitch, puis t'as l'espèce de high energy, t'as les séances avec Marc Lamotte, qui a full de connaissances en cinéma, qui va parler souvent des références du background du film. Tu sais, il y a comme. Chaque programmateur a comme sa personnalité de présentation, puis je pense qu'il faut que tu trouves la tienne là-dedans. Là. Ouais, mm-hmm. C'est bien, bien le fun. Ouais.
Et donc, c'est quoi le compte, là? C'est quoi votre compte, les gars?
C'est ça, Rémi, toi, t'es rendu à une quinzaine de films, je pense.
J'en ai vu 15. Deux que j'ai, comme, on peut-tu dire, triché, mais j'ai regardé des screeners de chez nous. Là. Je fais ça aussi ce soir, là, des fois. J'ai besoin d'une petite soirée à la maison. Mais puis il y en a une couple que j'ai vue à Bruxelles, là, fait que, mais tu sais, j'en ai vu 15 dans l'espace du festival. Mm-hmm. Là.
Ouais, bon, ouais.
Moi, je suis rendu à 12, mais là-dessus, il y en a un de 5 heures japonais. Fait que...
Ah, ouais, c'est vrai. Mais c'est un part 1, part 2. Fait que, tu sais, ça. Ouais. Hey, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, en fait. Parce que, quand même, danse de checker ça en salle. Là.
Ben oui, ben lançons le bal. En fait, c'est ça, ce film-là. Donc, je faisais allusion, c'est Wilderness. C'est un film japonais, donc, qui, au Japon, est sorti, en fait, en deux parties. Et sorti la même journée, en fait. C'est une drôle de stratégie de cinéma, parce que j'ai l'impression que les premiers jours, le deuxième film devait vraiment pas avoir beaucoup de spectateurs.
Ouais, c'est ça. Hein.
Mais bref, je pense que c'était un peu peut-être un test aussi pour voir qui allait vouloir se faire des double features, puis peut-être laisser aux spectateurs le besoin de l'écouter comme on veut. Mm-hmm. Fantasia, dans toute sa clémence, évidemment, mettait les deux séances en une pour permettre aux détenteurs d'un seul billet de voir les deux films. Et qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation du seul roman de Shuji Terayama, qui est un cinéaste d'avant-garde japonais, qui est ici réalisé par Kishi Yoshiyuki. Et c'est une espèce de drame sportif, un peu à la Warrior, qui est sorti il y a quelques années, où on est vraiment comme... On montre les deux personnages principaux, autant l'un que l'autre. Il y a comme pas vraiment de personnages secondaires, c'est comme deux personnages principaux qu'on explore. Mm-hmm. Sauf que là, il y en a comme 4-5. Et il y a également toutes sortes de trames historiques qui se déroulent autour de la boxe. Parce que c'est également un film qui se passe en 2021, juste après les Jeux olympiques de Tokyo, donc qui vont avoir lieu dans quelques années.
Ah ouais.
Et qui fait un peu aussi une espèce de réflexion sur le Japon moderne, sur les inégalités. Puis ça se déroule un peu... Il y a un petit peu une vibe de Children of Men du pauvre, là. Tu sais, comme au tout début du film, il y a quelqu'un dans un café, puis là, soudainement, il y a comme une explosion à côté, tout le monde capote, puis tu sais, il y a un peu le même genre de scène.
Ouais.
Mais c'est comme sporadique un peu. On dirait que le film, c'est tellement une grande fresque là, qu'on dirait que des fois, il sait pas exactement le ton à adopter, ni vraiment sur quel sujet se pencher. Est-ce que, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une adaptation romanesque où on n'a pas voulu couper de bout, puis on a juste voulu tout mettre. Peut-être, tu sais, pour plaire aux fans ou peu importe, ou peut-être d'avoir comme ainsi deux films pour pouvoir vendre plus de billets. Je suis pas sûr que globalement ça marche. Mais on est vraiment dans un film divertissant. Tu sais, bon, là, dans la description de Fantasia, on parle de Rocky. C'est sûr que c'est du bon drame sportif comme on les aime, avec un peu des laissés pour compte. Puis là aussi, c'est qu'ils ont le lieu puis l'espace pour vraiment comme qu'on développe chaque personnage avec les raisons qui les poussent à vouloir devenir boxeur, à devenir pro, etc. Mm-hmm. Et on voit leur premier match, l'ascension, jusqu'à l'inévitable duel entre les deux qui étaient devenus comme des frères de sport. Là, ils s'appellent tout le temps justement Aniki, grand frère, tout ça. Mm. Puis ce qui est drôle aussi, c'est comme. Ça arrive quand même assez souvent dans le cinéma japonais commercial grand public. Là, c'est vraiment comme. Il y a des gros passages au mélodrame intense avec larmes appuyées, sans vraiment aucune distinction. Là. Un peu comme, je sais pas si, pour ceux qui ont vu peut-être Battle Royale, il y a comme des espèces de flashbacks de l'équipe qui joue au basket. Là, pis ça vient vraiment juste après des scènes super trash. Il y a un peu comme tout le temps ces espèces de virements soudains qu'on n'est pas habitué, mais qui je pense que c'est un peu plus accepté dans le cinéma japonais moderne. Mais sinon, c'est ça, le film repose en grande partie sur les performances des acteurs, qui sont très bons. avec des rôles parfois pas toujours super flatteurs. Notamment, il y a un des boxeurs que dans le fond, c'est un barbier qui décide de boxer pour se prouver à lui, qui habite encore avec son père, qui a genre 32 ans, et qui bégaye. Donc, très peu de lignes dans le film. Puis il va plutôt faire parler ses performances que vraiment son personnage. C'est pas un rôle facile, il s'en tire bien. Les acteurs, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on se permet vraiment d'accrocher au film. Ça passe quand même très bien le 5 heures, on le voit pas passer nécessairement. Mais c'est un peu filmé très clean, très correct. Il y a pas beaucoup d'inventivité. J'oserais dire que ça fait assez télévisuel. Tu sais, je vois pas trop ce que ça apporte comme de le voir en salle. Puis tu sais, comme la boxe, c'est tellement un sport qui est associé au cinéma, qu'il y a eu tellement de beaux films là-dessus, que c'est dur d'arriver sans une espèce de nouvelle proposition. Est-ce que ce film-là a quelque chose de nouveau à dire sur la boxe? Je pense pas. Donc, à qui ça s'adresse? Honnêtement, je le sais pas trop. Tu sais, la salle, c'était quand même bien remplie, puis je pense que le vibe était bon. Mais c'est dur un peu de définir ce que ça s'adresse comme aux jeunes ados qui vont être fans de l'acteur principal, qui est comme un jeune beau gosse japonais qui est sûrement comme l'une des belles stars montantes. Ou est-ce que c'est comme les adultes vont voir ça? Honnêtement, je sais pas trop à qui ça s'adresse. Puis en voulant toucher à toutes sortes de sujets, je pense que le film se perd un peu. Mais malgré tout, pour un film de cette durée-là, ça passe très bien, puis c'est un beau moment. Fait que, bon, un résultat en demi-teinte, c'est vraiment pas comme un de mes highlights du festival.
Je sais pas si toi, Rémi, t'as un film japonais long pour contre-attaquer, mais moi j'en ai un, en tout cas, Nagatami.
Ben oui.
Sacré.
Ben vas-y, Pascal,
ben, c'est tant qu'à faire, parce qu'après ça, moi j'en ai vu vraiment moins que vous, hein, fait qu'après ça, je vais être plus en mode écoute, puis je vais rebondir minimalement, là. Mais ouais, là, parce que ça me brûle un peu d'en parler, celui-là, là, tu sais. J'en ai vu beaucoup moins de films que vous, là, à Fantasia, mais celui-là, disons qu'il... c'est assez copieux. Tu te dis, toi, c'est un film de 5 heures que tu vois pas passer. Anagatami, c'est un film de presque 3 heures, mais je veux dire, je sors de là comme si j'avais couru 4 marathons, là.
Ouais.
C'est, d'un, c'est un film... Ben, un peu de préambule, parce que ça vaut la peine de l'introduire, ou tu sais, un peu c'est quoi la genèse de ce film-là. Déjà... c'est un film de Nobuhiko Obayashi. Obayashi qui nous avait donné le film Haosu en 77, film culte, psychédélique. Puis c'est drôle parce que j'essaie, à la sortie de ce film-là, je me suis ramassé, on dirait qu'il y avait tout plein d'amis critiques ou cinéphiles, tu sais, tous les plus hardcore, là, ils étaient là, je veux dire, dans cette salle-là précisément, là, tu sais, Peter Rist était là. Puis tu sais, c'est comme le film, j'ai l'impression qu'il a comme attiré, c'est l'espèce de faune cinéphile, les plus hardcore de la gang. Mm-hmm. Puis à la fin, on s'est comme un peu réunis pour en parler, tu sais. Puis c'était drôle, puis là, j'étais en train de me dire, ouais, mais. Il me semble que c'est encore plus extrême que Haosu. Puis là, il y avait Alexandre Fontaine-Rousseau qui me rappelait Haosu. Puis j'étais comme, oh non, c'est vrai. T'sais. C'est vrai que Haosu, c'est tout le temps un trip d'acide. Mais ben, Anagatami, c'est parce qu'en fait, c'est que c'est plus épuisant. C'est que c'est... De un, OK, c'est un film de 2h50. Il y a un score de A à Z. Mais je pense qu'il doit avoir peut-être 2 minutes sur 3 heures ou qu'il n'y a pas de musique. C'est assommant. Ça en devient... c'est stylistique, là, comme carrément, de jouer sur cette espèce de saturation sonore-là. Pis c'est une saturation sonore qui en devient quasiment novatrice parce que des fois, par exemple, les personnages vont chanter une chanson diégétique, mais il y a le score extra-diégétique par-dessus. À un moment donné, il y a 3 tunes qui s'empilent parce qu'il y a un montage en parallèle de quelqu'un qui chante, un record player qui joue, puis le score par-dessus. Il y a littéralement comme 3 musiques empilées, là, c'est de la cacophonie ultime. Puis conjugue à ça... un average shot length de au moins, je dirais, maximum 3 secondes. Je te dis, là, le film, il est complètement TDAH. Je veux dire, c'est kinétique au point d'en devenir... mais encore une fois, je reviens en arrière, parce que ça vaut vraiment la peine. Fait que Obayashi, donc, il a été... Là, c'est un réalisateur quand même qui a plus de 70 ans, qui a quand même vraiment beaucoup de métiers. Et juste avant de commencer à tourner, il a été diagnostiqué par le cancer. Et un cancer des poumons, il se faisait donner 3 mois à vivre, apparemment. Et non seulement il a vécu plus que 3 mois, en fait, là, il est miraculeusement guéri. C'est un peu comme si, c'est beau, hein, la vie, c'est comme si le cinéma l'avait sauvé, puis sa volonté de faire son testament cinématographique l'a sauvé, littéralement. Mais c'est ça, donc c'est son testament cinématographique, il a voulu tout mettre. Puis le film est tourné à un genre de vidéo, tu sais, c'est du numérique, mais du numérique un peu cheap. mais un peu cheap, mais vraiment exploré, tu sais. C'est-à-dire, on dirait qu'il fait tout... C'est comme si quelqu'un qui découvre iMovie pour la première fois puis qui décide qu'il fait toutes les transitions là, sur iMovie dans son film. Là. Puis je vais te donner d'autres exemples. Il y a, souvent, il y a des plans où il va faire, tu sais, des gros zooms numériques, mais tu sais, pas des zooms numériques de 2-3%, là, juste pour donner un petit peu de feeling à ton image. Là, il va zoomer là, x2, x3. Tu as des shots qui se juxtaposent où tu as les pixels gros comme le bras, puis genre après... Il fait ce qu'il veut, il inverse, il fait des champs contre champs, puis à un moment donné, il décide qu'il fait un shot en miroir pour changer l'axe, mais pour tricher l'axe parce que ça le tente.
Ah ouais.
Oh oui, genre,
ça, ça me semble insupportable, la manière que tu dis ça.
C'est peut-être le mot insupportable. C'est un film donc qui se passe, pour vous raconter un tantinet d'histoire, ça se passe quand même dans le Japon de la guerre. Fait que c'est ça, t'sais, l'ultime traumatisme japonais, là, la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est ça, mais à travers des jeunes, des amis, mais c'est un peu soap opera en même temps parce qu'il y a presque pas de personnages, puis tout le monde un peu se match avec tout le monde dans le courant du film. Il y a comme, tel ami à un moment donné va triper sur telle fille, puis à un moment donné telle fille va se ramasser avec tel personnage. C'est un peu une fresque, mais comme un peu co-sanguine, c'est très particulier. Mais c'est ça, on dirait que t'as 4 saisons de téléroman japonais, mais dans un film sur acide, là. Je peux pas dire que c'est un grand coup de cœur, mais à tout le moins, c'est une tabarnak d'expérience. Fait que Anagatami, pour les plus durs de durs, là. Puis sûr, puis les fans finis de Haosu vont y trouver leur compte, j'imagine. Mais tu sais, c'est que Haosu, il y avait la beauté de la pellicule. Là, c'est du numérique, puis tu sais, pas flatteur, là.
Ouais, il se gêne pas à... Mais c'est quand même... c'est très japonais comme esthétique, tu sais. Si Onsono fait ça souvent aussi, de se crisser de la qualité d'image au profit d'avoir les shots dynamiques comme il veut, là.
Ouais, il va vraiment,
tu sais, il va switcher de caméra, il va mettre des GoPro, puis il en a rien à foutre, là. En fait, tu sais, j'en vois un par année, puis moi, tout, j'ai vu le mien cette année, puis c'est même pas ceux-là, c'est « Louder! I can't hear what you're singing, Wimp! »
Ah ouais.
Fait que je suis allé voir celui-là, qui était le réalisateur de Drift in Tokyo, qui était vraiment plus tranquille, là. Puis là, c'est genre, c'est un... Parce que tu parles de du film, Pascal, puis j'ai vraiment le même feeling, puis même constat. Oh ben. C'est épileptique, il y a tellement de choses qui se passent non-stop. Des traits de personnages qui ressortent, qui n'ont jamais été établis, puis c'est comme... c'est all over the place, juste pour comme que tu perdes pas, là. C'est pour des gens en déficit d'attention, là. C'est comme...
Oui,
juste...
oui.
Bon, la caméra, là, elle bouge tout le temps, là, genre dans ce film-là, là, des fois, là, genre, elle fait comme des tonneaux, mais dans une scène vraiment normale, là, la caméra, elle fait juste, c'est l'image, elle fait juste flipper de upside down, pis c'est comme, pourquoi ça bouge, là? C'est juste, ils sont en train de manger un ramen à un comptoir, là. C'est comme, pourquoi ça, tu sais, tout le temps, la caméra est tout le temps sur un slider, ça part dans tous les sens, là, mais c'est comme, c'est tellement japonais de faire ça, de faire comme, ça va être comme, ça va vous brasser, là, tu sais, c'est genre énergique. Mais tu sais, c'est le fun d'avoir Fantasia, mais tu sais, pour moi, il est comme... Tu sais, je mets tous mes films dans un top, là, tous ceux que j'ai vus, parce qu'on aime ça faire des listes, là. Puis tu vois, lui arrive au milieu de ma liste, parce que c'est comme... C'est vraiment le fun, mais en même temps, c'est tellement imparfait, puis hit and miss,
là. Ouais.
Mais je suis le seul qui trouve que... j'ai pas vu ces deux films-là que vous parlez, que de regrouper Sion Sono parmi cette vague-là, on dirait que pour moi, c'est autre chose qui fait Sion Sono qui est plus de l'ordre de l'artisanal, du poème. T'sais, puis lui, il a travaillé beaucoup avec la pellicule 8 mm au début de sa carrière. Il fait de la poésie. Puis, tu sais, comme... Si on se nomme, serait peut-être plus le Michel Gondry, là, quelqu'un qui veut vraiment gosser avec ses mains. Puis, tu sais, vraiment faire des trucs, tu sais, un peu quasiment naïf enfant, plutôt que de juste, comme, cliquer sur toutes les options, tu sais, de post-prod ou de... Je sais pas.
Ben non, en fait, c'est ça. Puis, je lui ai fait un procès d'intention qui était pas... un peu malhonnête, parce qu'en fait, Obayashi, quand même, à la sortie d'Anagatami, c'est pas vrai que c'est juste comme quelqu'un, tu sais, comment dire, d'immature qui clique sur tous les boutons. Je pense que, un peu comme un Godard aujourd'hui ou d'autres, tu sais, je pense que ça naît d'une profonde, un profond désir de façonner une expérience avec les moyens d'aujourd'hui. C'est un peu une façon de s'inscrire, malgré son âge vénérable, peut-être dans le temps d'une certaine façon, tu sais, dans le temps, mais tu sais, dans le temps d'aujourd'hui, là, vraiment, comme comment. Quelqu'un qui commencerait à faire un film le ferait comme de façon super libre. Puis c'est comme si lui, peut-être, justement, comme je disais, sachant que c'était peut-être le film de sa vie ou le film, tu sais, mm-hmm. son dernier film, c'est un peu comme si peut-être il avait voulu se remettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui découvre. C'est comme du naïf, mais du naïf fait par un maître tout de même. Puis il y a des moments de génie malgré tout. Tu sais, je pense pas que c'est complètement dans le camp de certains autres cinéastes un peu tâcherons qui font juste des films... qui vont vite parce que là, tu sais, je veux dire, il y a quand même une recherche, il y a quand même une démarche, je lui enlève pas, mm-hmm. mais pauvre spectateur, ouais. J'allais voir un film après, puis j'ai cancellé mon film après, pour vrai, j'étais comme, je peux plus gober de l'audiovisuel, là, je vais juste, ma tête va exploser, ouais. Je suis comme retourné chez nous, là, ça a été ça.
En pleurant. En tout
cas, ouais, non, pas en pleurant, quand même, mais sacrifice. En tout cas, fait que, mais toi, mon Rémi, toi, là, à part de ça.
Ben moi, je peux peut-être faire un top 3 à mi-festival, là. Oh. N'incluant pas, disons, ceux que j'avais déjà vus auparavant, là. Ceux que j'ai découverts dans la dernière semaine et demie. Donc, numéro 3, je mettrais le film Cam, qui est un genre de thriller surnaturel, kind of. C'est un peu spécial à classer, mais c'était... Ça, c'est un fun movie de festival, là. C'est vraiment...
C'est quoi, excuse-moi, tu l'as nommé?
Cam. Mais... En gros, c'est une fille qui fait une modèle sur Internet qui fait de la cam porn, au profit des gens qui donnent de l'argent sur Internet, puis il faut qu'elle fasse des trucs devant une caméra, là.
Ouais, j'en ai entendu parler, ça.
Ouais, j'ai entendu parler de ça, moi, des affaires comme ça, là. C'est ça, puis il y a comme un truc qui arrive que il y a un genre de doublon d'elle qui commence à faire des shows, qui vole son account, puis qui commence à faire des shows, puis à qui vole un peu sa vie, là, dans le fond, puis son channel, puis qui fait ce qu'elle veut, mais c'est elle qui est sur la vidéo, puis elle peut rien faire pour le canceller, puis ça devient un genre de qui fait ça, comment ça se peut, ce truc-là. Puis elle a des freak fans qui essaient de la contacter tout le temps. Puis, tu sais, là, elle se demande si c'est quelqu'un dans ces fans-là, de ses shows. Il y a sa famille aussi, la vision de sa famille là-dedans qui embarque. C'est pas... disons que c'est un film avec beaucoup de failles, beaucoup de d'irrégularités, mais en tant que film de festival, fun movie, un peu slasher, c'est vraiment... Ben, pas slasher, là, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment de gros gross-out moment, là, mais c'est vraiment c'est un fun film à découvrir en festival.
Mais c'est fou comment, tu sais, c'est tellement... Puis je sais pas pourquoi c'est particulièrement à Fantasia, puis dans le cinéma de genre, qu'on retrouve un peu ces inquiétudes-là, mais tu sais, les inquiétudes modernes, là, c'est pas nécessairement de te faire blesser ou que quelqu'un, tu sais, fasse des menaces ou je sais pas, te kidnappe ou whatever, c'est vraiment d'avoir ces informations... voler, tu sais, puis de comme se faire hacker son ordi ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Puis c'est fou comment que... Puis c'est vrai que moi, je me dis, man, la pire affaire qui pourrait... Ben, peut-être pas la pire, mais tu sais, comme si quelqu'un volait mon laptop avec tous mes documents, mes trucs, puis je serais comme tellement mal. Ouais. Fait que c'est ça, il y a comme plusieurs films qui explorent ce créneau-là au festival.
Ouais, puis là, c'est ça. Puis en plus, tu sais, j'embarquerai pas dedans en détail parce que... Elles sont pas dans mon top 3, mais reste que, tu sais, j'ai vu Unfriended, le nouveau, vu Profile, j'ai vu, Cam, puis j'ai vu le documentaire People's Republic of Desire, fait que c'est comme quatre films qui se passent avec des ordis puis des webcams, pour vrai, là, c'est parce que, tu sais, je fais ça de ma journée, là, d'être devant un ordi pour faire du montage, puis je vais à Fantasia pour relaxer puis checker des films, puis j'en ai vu quatre avec des écrans, puis je suis comme... À chaque fois que je sortais, là, j'étais un peu saturé, puis surtout que cet après-midi-là, c'était People's Republic of Desire, puis après Cam, tu sais, je les ai vus back-à-back, là, puis à la fin, là, des alertes, là, des pop-up dans des écrans, j'étais comme tellement brûlé, là, de regarder ça, là.
Fait que c'est vraiment étouffant, là. Je vais aller partir, mon Skype pour enregistrer Point de vue.
Ouais, c'est ça, tu sais, puis là, on est devant l'ordi, puis on fait ça, là, mais c'est comme...
Mais c'est triste, hein, ce que ça dit un peu sur la société, tu sais, parce que le cinéma fonctionne beaucoup par principe d'identification, puis effectivement, comme, de voir de plus en plus de films comme ça, qui utilisent, tu sais, les écrans, l'omniprésence de l'écran comme un moteur narratif dans un film, c'est ça, tu sais, dans un sens, ça en dévoile quand même beaucoup sur les habitudes... du nord-américain moyen ou du, tu sais,
c'est plus la plage ou la douche, là, qui est la source de nos angoisses, c'est notre laptop, là, tu sais.
Ouais.
Je sais plus c'est quoi le nom, mais tu sais, Timur Bekmambetov, en fait, ouais. Il était venu pour son masterclass à propos de ça, là, parce que dans le fond, c'est lui qui a backé les trois films qui se passent dans des écrans, Unfriended, Profile, puis Searching. Puis il parlait de ça, puis ils ont même mis un terme, là, je m'en souviens plus, mais ils ont mis un terme sur le type de cinéma comme found footage, mais là, il y a un nouveau terme pour ça parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Là.
Mm-hmm.
C'est ça. Je vais passer à mon numéro 2.
Donc,
ça, c'est une belle surprise parce que c'est un film que j'ai vu entre deux, puis je pensais pas aimer ça. Là, puis un film de zombie, là, à chaque fois, je suis tanné, mais quand tu réussis à trouver le concept, un nouveau concept, ça fait du bien. Je sais que toi, Paul, tu l'as vu, mais c'est La nuit a dévoré le monde.
Oh!
Je pensais vraiment pas triper, mais c'est vraiment un... Tu sais, il y a comme... En gros, c'est un gars qui se réveille dans un appartement parisien, puis il y a eu une fin du monde dehors avec des zombies qui ont envahi la ville, le grand classique. Mais il décide de s'enfermer dans l'appartement, dans le bloc en entier, en fait. Fait que tu sais, il a accès aux autres appartements, puis dans le fond, il se construit une vie à l'intérieur de ça tout seul, là.
C'est ça, c'est les appartements parisiens, là, comme sur plusieurs étages. Puis,
Ouais, avec des vieux ascenseurs en cage, là, puis tout. Mm-hmm. Fait que c'est un peu un film de survivalisme, mais c'est pas avec la confrontation avec les zombies, c'est plus avec la confrontation avec lui-même, parce que dans le fond, ça ressemble plus à Castaway, là, seul au monde. Il y a même un équivalent de Wilson, là, le ballon, là, dans le film. Puis les je dirais que les 45-50 premières minutes du film, il n'y a pas une ligne de dialogue. C'est vraiment unique dans sa forme pour ça. Ouais, c'est ça, c'était bien, vraiment bien fait, c'était bien joué. La cinématographie est vraiment intéressante, il y a des beaux plans. Puis le gars, en fait, c'est un drummer aussi, fait qu'il joue du drum, des scènes dans le film. Il y a comme un mélange de musique diégétique, mais il n'y a pas vraiment de musique dans le film, sauf qu'il y a beaucoup de musique diégétique avec le drum.
C'est ça, parce que dans le fond, ce qui est différent, je pense, de la plupart des films de zombies, c'est que celui-ci s'inscrit vraiment à la durée. T'as des ellipses où il passe des mois là, dans cette espèce de phare-là qui s'est construit. Puis, qu'est-ce que tu fais quand t'es musicien, que t'as rien à faire? Ben, c'est ça, des fois, il s'amuse à faire de la musique. Mais tu sais, la musique avec, mettons, des verres d'eau à moitié remplis, puis des casseroles, des trucs comme ça.
Ouais.
Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, s'il y avait vraiment un apocalypse, tu sais, c'est pas tout le monde là, qui serait un super-héros puis qui commencerait à sortir pour les bûchers comme dans Walking Dead, tu sais. Donc, lui, c'est plutôt comme genre, je me trappe, puis j'ai la chienne, puis je vais essayer de tuer le temps, tu sais, puis je compte combien j'ai de cannes, puis combien j'ai de grains de riz, puis combien de temps je peux survivre.
Là. Ouais, puis ça rend les scènes de tension encore plus fortes parce qu'en fait, c'est pas un feu roulant d'action, le film. Fait que tu sais, quand il y a une scène d'action qui arrive, c'est parce qu'elle est méritée, là, parce que le personnage est avec lui, puis il se protège vraiment, puis il prend toutes ses précautions pour pas se faire pogner. Fait que quand les moments de tension arrivent, ils sont vraiment forts parce que t'es juste avec lui, tu sais. C'est ça le personnage qui est important. C'est plus un Last Man on Earth, là, ce film-là. C'est, donc, ouais, c'était vraiment intéressant. Puis ça, c'est.
Oui, vas-y.
En fait, je disais juste, c'est souvent au festival, t'as des grosses attentes, mais t'as aussi les films, ces petits films-là que tu fais, bon, je vais aller le voir par principe, comme mon numéro 1 de l'année passée que j'avais mis Les Garçons Sauvages, qui est un peu un film que j'ai pigé au hasard au FNC. C'est toujours meilleur parce que t'as pas tes grosses attentes de construite autour de ça. Là.
Une couple des choses que j'aurais acheté aussi sur La nuit à dévorer le monde, tu sais, déjà, il y a comme deux rôles vraiment intéressants dans le film, notamment Denis Lavant qui interprète un zombie, tu sais. Tu sais, il y a pas de ligne de dialogue, là. Il est infecté, puis c'est quand même, tu sais, cet acteur-là, tu sais, ce géant-là, qui vient du cirque, tu sais, c'est quand même vraiment intéressant pour lui de lui donner un rôle de zombie, je trouve. Comme lui, dans le fond, il est enfermé dans un escalier, ben, il devient un peu comme l'espèce de compagnon, là, tu sais, du personnage.
C'est le Wilson, là, c'est lui que je parlais tantôt.
Ouais,
c'est le ballon à qui le personnage principal va parler quand il a besoin de jaser à quelqu'un, tu sais, il parle à un zombie Denis Lavant dans une cage d'escalier, dans une cage d'ascenseur, là.
Ouais. Et puis également Golshifteh Farahani, qui apparaît en deuxième moitié du film. Puis elle, je trouve qu'elle elle crève le cœur. Cette actrice-là, pour vrai, là, elle a tellement d'une présence puis du charisme, là, c'est incroyable. Autre chose aussi que je vais souligner, c'est que c'est vraiment un être moyen qui est le protagoniste, on peut s'identifier un peu à ses décisions et je pense que ça justifie mieux lorsqu'il va prendre des décisions discutables, parce que là, tu dis, ouais, tu sais, je pense que moi aussi, je serais peut-être stupide, ou des fois, je ferais des erreurs, ou des trucs
ou
comme ça.
T'amener au point de, c'est ça, m'amener ton jugement commence à être embrouillé. Ouais, comme fait que tu finis par comprendre.
C'est ça, fait que comme il y a une espèce de moment où il voit un chat dehors, puis là, tu sais, lui, il s'ennuie en maudit, là, puis ça fait des mois qu'il est tout seul. Là. Fait que là, il essaie d'aller le chercher, puis là, il prend des risques inutiles pour ça. Mais tu sais, dans un film d'horreur classique, je pense que je serais comme, ah, oh, tu sais,
il est crétin,
fais pas ça.
C'est niaiseux, ouais.
Mais là, ouais. Le film, tu sais, a passé assez de temps avec lui pour que tu vois son évolution, puis tu dis, ben, je pense que moi aussi, j'essaierais à tout prix d'avoir un chat, parce que, ben, pas moi personnellement, parce que je suis allergique, là. Mais c'est comme, je me dis, Rémi essaierait sûrement d'avoir un chat.
Ah,
parce
moi, c'est
que,
sûr. Moi, je me serais tué pour le chat, là. je serais devenu un zombie big time.
Fait que non, c'était.
Mais je me serais arrangé pour que le chat se fasse mordre aussi, puis que j'ai un chat zombie avec moi.
Okay, cool.
C'est ça ma conclusion.
et ton numéro 1, Rémi,
qu'est-ce? Ben, écoute, on a eu le Silver Lake, là.
Oh, c'est ça, ah,
ouais. Puis, tu sais, pour le meilleur pendant... pour le pire, là, parce que... Hein?
Ben, c'est fou, parce qu'en plus, cette séance-là, c'était en même temps qu'Anagatami. Fait que toi et ouais. Pascal, vous étiez dans l'une et l'autre salle.
Ouais, exactement.
Ouais, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est pour le meilleur pour le pire, parce que c'est loin d'être un film parfait. C'est un film avec... beaucoup de références à d'autres films, tu sais, tu reconnais des styles visuels, mais tes plaques dans la face, mais on dirait que le fait qu'il se gêne pas puis qu'il souligne à gros traits, ça, pour moi, ça passait bien, là, tu sais, t'as vraiment, tu sais, t'as des tu sais, du David Lynch puis beaucoup de Hitchcock, là, mais Hitchcock, genre, au point, à un moment donné, c'est... Il y a un plan qu'il te le met là, dans la face, là, mais textuellement, je dirais, vous allez voir ce que je veux dire en voyant le film, mais textuellement, il te met Hitchcock dans la face. Mais c'est vraiment intéressant, puis même que pour moi, ben, je vais peut-être juste faire un résumé vite de l'histoire, là, mais c'est Andrew Garfield qui joue une espèce de slacker qui va se faire foutre en dehors de son appartement parce qu'il paye pas son loyer, qui voit une voisine de son balcon, une nouvelle voisine, il lui parle le soir même, ils passent une belle soirée ensemble, ils s'embrassent, puis ils se disent qu'ils vont se voir le lendemain matin. Mais le lendemain matin, quand il va la voir, l'appartement il est complètement vide, la fille a disparu, puis il y a des symboles étranges sur les murs. Fait que là, il devient un peu comme obsédé, puis on découvre petit à petit que ce personnage-là a même des obsessions un peu OCD pour des trucs de conspiration, tu sais, mettons, écouter des vinyles à l'envers pour découvrir des messages codés, des trucs de même. Fait que tout ça mène à ce que lui veut découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec la fille, puis comment peut-être il y a un gros complot autour de ça qui fait que la fille a disparu. Je vous dirais que le à quoi ça m'a fait penser un peu, juste un tout petit peu, mais c'est un film à la Burn After Reading des frères Coen, où il y a énormément de personnages weird, beaucoup de non-sens, mais du non-sens qui est très assumé par le film. Donc le cinéaste le sait que c'est du non-sens, mais il le met parce que c'est le fun puis parce que c'est du weird qui est spectaculaire puis qui te mène sur des différentes pistes de réflexion dans le film, qui appuie ses thèmes, mais qu'en même temps c'est des images fortes, des images marquantes dans le film. Puis j'irais même jusqu'à dire que It Follows, son précédent film, était vraiment meilleur, vraiment plus tight. Mais les deux des défauts d'It Follows, d'après moi, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a pas vraiment de personnages mémorables, là, des personnages marquants d'It Follows. C'est plus un film tight, un bon film d'horreur tight avec une belle construction. C'est des moments super angoissants. Puis, tu sais, il y a des bonnes scènes dans It Follows, mais il n'y a pas de scènes particulières qui sont... vraiment sensationnel.
Non, c'est un tout, effectivement. C'est ça. Le concept, c'est, film... c'est bien exécuté, bien mené. Tout
exact.
Est là.
Exact. C'est un film ultra bien balancé. Ce qui n'est pas pour Under the Silver Lake, c'est zéro bien balancé. Là. Ça part dans plein de directions. Mais il y a plein de personnages vraiment nice dans le film que tu as hâte de retrouver à travers le film, que tu espères retrouver. Puis tu as des scènes. Tu sais, des scènes que moi j'ai vraiment hâte de le revoir, en fait, tu sais, comparativement à It Follows, qui est pas nécessairement un film que je vais revisiter plein de fois, que j'adore, mais que je vais pas revisiter. Under the Silver Lake, il y a des scènes que j'ai juste hâte de revoir, là, de redécouvrir, là. Mais tu sais, comme là j'ai accroché des défauts dans le film, puis il y en a que ça va taper sur les nerfs, puis ça sera pas du tout une réussite, là. Je sais que beaucoup de monde, peut-être un de vous va vraiment détester le film, puis c'est comme, je vais absolument comprendre pourquoi, mais moi c'est des trucs que j'ai pas eu tant de problèmes avec ça, là. Peut-être avec même cette mise en garde-là, vous allez être plus prêt à le gober, là. Mm-hmm. Mais c'est vraiment particulier comme truc. Ça peut, il peut avoir aussi des touches de Quentin Dupieux, là, dans le non-sens, là, dans le film, là. Oh, c'est ouais. du what the fuck, vous aurez pas d'explication dans le film, mais c'est juste nice, là, pis c'est des belles surprises dans le film, puis comme c'est un film, là, laisse-toi porter par ça. Puis le film est tellement souligné à gros traits partout, t'as une direction photo, ben tu sais, de base c'est un peu un film noir dans tout le côté enquête, mais la cinématographie, là, la première fois que tu vois la fille recherchée, t'as une lumière, là, juste sur ses yeux, là, t'sais, l'éclairage film noir ultra appuyé avec de la grosse musique orchestrale du début à la fin, tu sais, It Follows allait plus dans l'électro. Mais tu sais, il y a un côté intemporel là, dans ces films où il va mélanger les époques, mais là t'as vraiment un score genre Bernard Herrmann du début à la fin, là. C'est de la grosse musique d'orchestre, mais t'es dans un contexte moderne, fait que t'as comme une espèce de mélange d'époques vraiment trippant, qui donne un ton assez unique, là, au film. Ben, unique en pigeant partout, mettons. T'sais,
mais c'est donc un... c'est drôle, c'est une comédie, c'est quoi?
Ouais, il y a vraiment des, ben, il y a des moments thrill, mais c'est principalement un slacker comedy. Moi j'ai pas vu Inherent Vice, mais je me suis fait dire par du monde qui l'ont vu que ça leur a rappelé ça, là. Okay, je salue Jules Saunier qui m'a parlé de ça, qui m'a dit aussi qu'il trouvait ça plus le fun que Inherent Vice, fait que ça c'est vraiment ses mots. J'ai pas vu Inherent Vice, mais je peux peut-être comprendre avec ce que j'avais entendu sur le film, mais c'est vraiment un gars, un genre de stoner, là, qui erre à LA à essayer de résoudre une enquête pas possible, puis qui vit des affaires weird qui seront peut-être pas tout le temps expliquées dans le film.
Moi, c'est drôle, hein? Le personnage me fait, sans avoir vu le film, là, mais de ce que j'ai vu, ça me faisait plus penser à Nightcrawler.
Ouais, mais il est pas. C'est pas un personnage en. Il est épais, mais en même temps, c'est pas un genre de psychopathe, là. Tu sais, Nightcrawler, c'est qu'il est. T'es avec le bad guy, là, dans le film, là. Avec, genre, le gars que tu veux pas rencontrer. Lui, il est juste. Genre stoner qui se laisse porter par la patente, puis qui s'embourbe dans des histoires pas possibles, puis qui veut, avec ses théories de conspiration, il devient de plus en plus cinglé, puis il va aller de plus en plus loin dans cette histoire-là, là. Quelque chose qui était vraiment banal au début devient une grosse montagne avec le temps. Le gros défaut du film aussi, c'est que c'est un film qui ont probablement laissé trop de liberté au montage final au réalisateur, là. C'est rare qu'on dise ça, là, mais pour vrai, il y a un producteur qui aurait dû passer le cutter dedans, parce que j'ai l'impression qu'il a mis tout ce qu'il voulait dans son film après un It Follows où il a tellement eu un gros succès que probablement qu'il avait comme carte blanche, parce que pour vrai, un film de 2h20 qui raconte ça, là, il y a au moins 20 minutes en trop dans le film, là, t'sais, solide 20 minutes. Parce que c'est un film avec du non-sens, fait que du non-sens, tu peux épurer ça puis en avoir une assez bonne dose, mais là, 2h20, il y a un bout, le film fini, puis il recommence, là, pour un autre acte, là, un genre de quatrième acte, là. T'es comme encore tu sais, ça repart à nouveau, puis je pense que ça s'est comme essoufflé, là, puis tu sentais dans la salle que il y avait un peu moins de rire, un peu moins de réaction dans la salle, le monde commençait à être tanné un peu. Fait que tu sais, c'est assez hit and miss, mais reste que overall, moi j'ai vraiment aimé l'expérience, puis ça reste mon numéro 1 du festival, là.
Ah ouais,
cool. Ouais.
Puis toi, Paul, mettons qu'on finit avec toi, là, ton top 2, top 2, 3.
Ben attends, j'avais une transition à faire, là.
Oh, t'as une transition à
faire. Oh,
sorry.
Parlant de second film de genre où on a laissé la carte blanche, puis qu'il n'y aurait peut-être pas dû avoir un quatrième acte, puis un producteur qui aurait dû décider de couper ça, Rémi Fréchette, on a vu Summer of 84.
Je l'ai pas vu, moi.
Ah, tu l'as pas vu? Je pensais que t'étais dans la
salle. Non, ben j'animais la soirée douteux en même temps.
Ah.
Puis comme mon film va passer avant au cinéma du parc, clin d'œil, merci à plein écran et à... non, mais je savais que j'allais le voir anyway au mois d'août, fait que je me suis dit, bon, tant qu'à regarder la moitié puis manquer la fin, je vais aller voir en entier, avoir l'expérience complète en salle, là. Fait que je vais te laisser le présenter. Là,
ben ouais, parler. Toi, Paul, ben ouais, plutôt tiède.
Ben c'est ça, ben je ferai pas un top qu'est-ce 2 en fait. Il y a juste un autre film que je parlerai après. Mais Summer of 84, c'est ça, c'est un peu une des grosses pointures du festival. Pourquoi? Évidemment, parce que c'est le trio Roadkill Superstar, François Simard, Anouk et Johan Carl Wissel, qui ont grandi avec le festival, un peu comme toi, Rémi Fréchette, qui ont eu plusieurs courts-métrages au festival, qui ont eu leur film Turbo Kid il y a 3 ans, qui avait passé par le financement de Frontières, le marché du festival, qui a été un très bon succès à l'international, pour ce que c'est, pour le budget, là. Et donc là, qui reviennent avec un film dont ce scénario qu'ils n'ont pas écrit, ce scénario qui leur a été proposé. Ils ont adoré le scénario et ils signent donc Summer of 84. Comme son nom l'indique très bien, on est dans la très grande nostalgie des années 80. C'est un film qu'il est absolument impossible de parler sans faire un peu le jeu du producteur, du player de Robert Altman. Et puis, tu sais, certains vont dire « Ah, ça ressemble à Stranger Things, ça ressemble à tel truc. » Moi, je trouvais vraiment que c'était, dans le fond, Rear Window d'Hitchcock, mais, tu sais, par la bande de Stand By Me, là, l'espèce de 4 jeunes...
Donc, comme l'épisode des Simpsons qui parodie Rear Window, genre?
Ouais, un peu comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est? On est en été 84, les 4 meilleurs amis du monde qui roulent évidemment à BMX dans les banlieues états-uniennes, qui se ramassent ensemble pour élaborer des plans et regarder des magazines porno dans leur cabane dans l'arbre. Soupçonne parce qu'il y a comme une vague de meurtres dans cette petite ville. On est dans le très Stephen King-esque aussi dans ce film-là. Que ce serait en fait le voisin d'un des jeunes qui est également policier. Alors ça devient compliqué un peu de ramasser des preuves, mais ils font un pacte pour essayer de découvrir ce qui se passe et tout ça, tout ça. On pense évidemment à It également, le club des losers. Il y a également une autre voisine, très jolie, un peu plus vieille, que le personnage principal va s'éprendre. Parmi les 4 jeunes, t'as le nerd, t'as le gros, qui passe pour un peu plus vieux, qui va éventuellement conduire une voiture parce qu'il est plus gros puis plus grand. Il y a également le jeune avec le blouson de cuir, qui est un peu plus axé sur le sexe et qui va toujours sortir les gros mots. Donc, c'est à peu près ça, l'ambiance. Et bon, avec la touche RKSS, incluant le 4e membre aussi, hein, directeur photo et également membre du groupe électronique Le Matos, Jean-Philippe Bernier. Mm-hmm. Et ça donne... Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une espèce de... un peu une coquille vide, honnêtement. Mon problème, c'est que j'ai plutôt l'impression que pour ce film-là, les cinéastes, le trio, je pense qu'ils sont pleins de bonnes intentions. Je pense qu'ils sont encore un petit peu trop en amour avec l'acte même de faire du cinéma. Et que plutôt que d'être un espèce de trio qui est capable de s'auto-régler, puis s'auto-modérer, tu sais, puis peut-être un peu faire le tri sur les bonnes et les mauvaises idées, j'ai l'impression que l'un des trois lance une idée, puis les deux autres tout de suite embarquent parce qu'ils sont exactement au diapason, puis qu'ils trippent sur les mêmes choses. Et que ça fait encore une fois un film tellement enthousiaste, mais tu sais, que t'as l'impression que c'est plutôt l'idée des personnages que ces personnages-là en particulier qu'ils aiment. Mm. T'as l'impression que les situations sont là parce que ça fait cool. En plus, tu sais, le tagline du film, tu sais, il y a la belle affiche là, avec la pinte de lait, puis le garçon disparu, puis là, ça, le tagline, c'est, tu sais, Even serial killer live next... je l'ai plus exactement. Là.
Next door?
Ouais, next door, quelque chose comme ça. Là. En tout cas, même un tueur en série vit à côté de quelqu'un d'ordinaire, tu sais. Puis t'es comme, ouais, OK. Mais genre, ça sonne cool, mais genre, ça veut rien dire dans un sens, tu sais. C'est ça, c'est que c'est pas une bonne tagline. C'est juste une tagline qui sonne cool. Puis comme la trame sonore, tu sais, en soi, la trame sonore, encore une fois, très électro, un peu comme Turbo Kid. C'est très bien en soi. Mais là, au Turbo Kid, ça faisait quand même partie d'un tout assez cohérent. Je trouve que là, ils ont juste un peu comme appliqué leur style sur une histoire, sur un scénario banal, finalement. C'est un peu dommage, c'est très dommage. Moi, je trouve que Turbo Kid, même si j'avais des réserves puis qu'il y a des faiblesses, c'est quand même un film plus cohérent. Mm-hmm. Et je pense que c'est parce qu'entre autres, parce que Turbo Kid, c'est un registre fantastique. Et que malgré toutes les influences, Turbo Kid, c'est quand même sa propre bibitte.
Oui.
Et c'est leur propre univers qu'on construit. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on... Ils ont aussi essayé d'être dans un registre plus réaliste, entre guillemets, tu sais, plus comme petite histoire d'horreur un peu, et ça fit pas avec leur cinéma qui est très...
coloré, c'est très,
ouais,
bonbon
même,
un peu même.
Même parfois camp un peu, ouais, c'est puis c'est très, très gore par moment. Donc, puis il y a vraiment... Puis il y a vraiment un espèce de fade to black, où tu penses que le film a fini, Puis là, il y a comme un 15 minutes qui part. Là, c'est une espèce de quasiment un bonus. Genre, on peut pas vous laisser là, on va vous en donner plus pour votre argent.
Ouais,
puis,
ouais.
Puis tu sais, ça pour vrai, ça fait mal parce que plus le film avance, puis plus t'es comme. Tu sais, vous le saviez vous-même que le film était fini, tu sais. Mais bon. Donc, moi, pour ma part, c'est une grosse déception. J'ai quand même hâte de voir leur prochain film. Je pense que c'est le Turbo Kid 2 en branle. Je sais pas si c'est avec ça exactement qui, sur quoi ils se dirigent. Mais je leur souhaite de. Tu sais, là, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire du cinéma. Ils ont prouvé qu'ils sont même capables de faire de l'argent. Puis, tu sais, faire des films qui sont populaires. Je pense que c'est juste le temps, en fait, de prendre de l'assurance. Puis de peut-être pas. Tu sais, de prendre le temps de faire un projet qui est vraiment là. Je trouve que Turbo Kid, c'est vraiment mieux que celui-là. Et que c'est très très bien là, comme premier film Turbo Kid. Là. Mais je pense que l'énergie était mieux concentrée, là, à mon impression. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont fait offrir plein d'affaires pour la suite, parce que Turbo Kid a eu un grand succès. Puis évidemment, je serais sûrement le premier à dire oui à plein d'affaires puis à être full enthousiaste. Mais des fois, tu te brûles d'autres opportunités si tu dis trop vite oui à quelque chose. Fait que, bon, ensuite, je vais pas faire, j'étais pas non plus dans les coulisses puis je sais pas quand ça s'est passé. Mais c'est vraiment parce que je trouve qu'il y a du potentiel que c'est d'autant plus une déception.
Bon, mais Colin.
Nomme-moi-en un
mais,
positif.
Mais le film, là, c'est pas juste un film positif. Moi, j'ai pas de top 5, j'ai pas de top 10. J'ai vraiment. J'ai vu une douzaine de films.
Il y a un top 1, c'est ça, j'allais dire.
Il y a le top 1 puis les autres. Puis honnêtement, ça me surprendrait que je vois un meilleur film à Fantasia cette année. Pas parce que la programmation est pas intéressante. Parce que, tu sais, c'est vraiment une très bonne programmation, mais aussi c'est parce que j'ai pas le temps de toutes les voir non plus, là. Mais j'ai eu la chance de voir Luz de Tillman Singer, qui est non seulement un premier film, c'est comme un film étudiant, dans le fond, c'est la thèse de quelqu'un, un jeune Allemand.
Ouais.
Puis ça, là, honnêtement, il y avait du hype, là, mais genre, the hype is real.
Believe ouais, the hype. Il était à Berlin, moi, je l'avais, quand j'avais épluché le catalogue, c'est là la première fois que j'en avais entendu parler. Les échos sont bons, puis... En plus, Paul, là, on enregistre là, un lundi à 6h. Puis là, j'étais comme, je vais peut-être être bon pour aller voir le film. Puis là, je regarde, finalement, on enregistre pendant la deuxième projection du film.
Ouais.
Puis, désolé. Fait que, je vais aller le voir parce que le devoir nous appelait. Ouais.
On fait des sacrifices pour toutes nos dizaines et dizaines d'auditeurs.
Centaines.
Et milliers.
Luz, là, le What's Up Luz?
Luz, OK, c'est le projet fou d'un étudiant qui s'est dit, sûrement parallèlement, je suis pas sûr que c'est une influence directe, mais qu'est-ce que donnerait grave si on remplaçait le cannibalisme par la possession? Ben, ça donnerait Luz une espèce d'œuvre intense de 1h10 à peine. T'sais, depuis tantôt, on parle de rythme, puis d'OCD, puis de TDAH, puis de tout ça. Ça, c'est le film qui a pas un seul gramme de gras de trop. D'ailleurs, il y a plusieurs longs plans fixes. Il y a une espèce de. Il y a de multiples jeux, en fait, dans le film. Je parle de type de jeu d'acteur. Parce que d'un côté, t'as des personnages ultra stoïques qui, tu sais, vraiment prennent la place et prennent les compositions. Tu sais, tout est très calculé. Les plans de caméra, quand ce sera pas des positions fixes avec des fois des lents travelling avant, des petits trucs comme ça pour installer l'ambiance. Les quelques rares pannes rapides souvent vont causer des états de choc là, quasiment autant pour le mouvement de caméra que pour ce qu'il dévoile lui-même mais en plus ce film-là en fait c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est une jeune fille Luz qui est chauffeur de taxi et qui se retrouve au commissariat de police pour être interrogée parce qu'il y aurait un accident, il y a également une fille qui manque à l'appel et elle serait au centre de tout ça. Donc, on fait appel à un psychiatre pour venir un peu la mettre sous hypnose pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et ce qu'elle sait. Et là, cette scène-là d'hypnose, okay, c'est un moment d'anthologie. Ça doit durer 30 ou 35 minutes, cette scène-là. C'est incroyable.
Oh, shit, sur un film de genre... Ça fait que c'est la moitié du film, là?
Ouais, c'est vrai. C'est le... Tu sais, en anglais, on dit le center meal ou le centerpiece. En tout cas, le gros moment du film, là, tout converge vers ça. Et c'est une scène qui en finit plus d'ailleurs parce qu'il y a de multiples allers-retours puis des multiples basculements de point de vue entre ce qu'elle raconte en prenant la posture de d'autres acteurs parce qu'elle est aussi sous hypnose, mais en plus c'est qu'elle c'est vraiment un jeu là, t'sais, corporel là, t'sais, puis elle a fait de la scène d'ailleurs puis ça se voit, puis t'sais, elle mime aussi toutes les actions qu'elle a faites, ouvrir la radio de son taxi, prendre une cigarette, tout ça, Et ça, elle fait donc avec des objets imaginaires. T'sais, elle n'a pas de props sur le tournage. Mais le travail sonore se met de son côté, de son point de vue. Donc, on entend quand même tous ces objets-là. Mais parfois, on va basculer genre rapidement dans l'événement en tant que tel. D'autres fois, c'est avec le psychiatre qui va prendre la place des autres parce que lui continue à lui parler puis à la guider au fur et à mesure qu'elle raconte l'histoire. Et à travers tout ça, il y a également des espèces de forces démoniaques qui envahissent les corps et traversent ou contaminent d'autres personnes. C'est pas très clair, même après la conclusion du film. Donc, chaque personnage vient interpréter lui-même et son double. Ça donne là, un film qui est incroyable et qui parle de cinéma aussi parce que le film en tant que tel dans la salle, honnêtement, c'est une salle complète puis c'est comme vivre une séance d'hypnose collective. Là, tout le monde était crispé, on savait pas ce qui se passait. Puis c'est un film qui se dévoile vraiment tranquillement, de manière oblique. On revient beaucoup sur les mêmes événements. Ça m'a un peu fait penser par moments à L'étrange couleur des larmes de ton corps. Du duo Forzé Kate et Forzani. Mais beaucoup moins éclaté peut-être au niveau de la mise en scène. Il y a comme une espèce d'énergie que ce duo-là, ça ressemble à rien d'autre. Là-dedans, on est dans le 16 mm granuleux, on est dans le commissariat de police où il y a des néons, des couloirs grisâtres, une ambiance étouffante. Et puis également, Luz, parce qu'elle est d'origine espagnole, va être également doublée et traduite par un traducteur. Donc, dans sa cabine, il y a tous des jeux aussi avec les écouteurs que les gens ont dans les oreilles, les différents niveaux un peu de dialogue et de parole. C'est un film que, émotionnellement et genre instinctivement, est satisfaisant. T'sais. Parce que tu le vis en tant que film d'horreur, c'est absolument efficace. Mais en plus, tu y penses pendant que ça se déroule, puis tu dis... C'est tellement intéressant ce que ça raconte sur comme ce qu'est le cinéma et ce que peut le cinéma, tu sais. Mm-hmm. Ça commence aussi à peu près la première scène, c'est dans un bar où t'as une espèce de femme fatale qui vient justement séduire le psychiatre parce qu'elle veut lui soutirer des informations, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qu'elle veut exactement, peut-être lui piquer son portefeuille. Et puis toute cette scène-là aussi, c'est genre magique, là. Il y a de l'humour également, c'est très bon, c'est l'humour un peu glauque, mais c'est vraiment un objet comme on en voit peu, honnêtement. Et mon seul regret, je crois, puis c'est même pas un regret tant que ça par rapport au film, mais plutôt que, vu que c'est un film allemand, j'ai l'impression que ça ne deviendra pas l'espèce de classique instantané que je pense que s'il était en langue anglaise, il deviendrait. Comme on parlait de It Follows, là, qui est devenu dans la conversation un peu, ou un Get Out, peut-être, qui est devenu un phénomène. Là. Je pense que si ce film-là était exactement le même, mais tourné en anglais...
Indie-américain, là, ouais.
Ou peu importe, là, mais je pense que ça serait comme un nouveau classique instantané.
Ouais, mais c'est pas un défaut du film.
C'est pas un défaut du film. C'est juste dommage que, tu sais, je pense que sa portée va être réduite à cause de ça. Mais si vous êtes fan, puis c'est même pas tellement. Tu sais, souvent, on se plaint des films d'horreur qui trichent, puis qui vont trop, soit juste, tu sais, compenser par le gore ou par les effets de surprise, choc, une espèce de manque de substance. Ça, c'est tout l'inverse. C'est un film qui est patient, qui a une tension tout du long de ses 70 minutes. Et puis, c'est comme un croisement. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont comparé aussi aux Possessions, justement, de Judavski. Et c'est ça, c'est une espèce de film saisissant. Le psychiatre, d'ailleurs, qui est joué par Yann Bloutard, par moments, là, c'est comme un croisement un peu entre, genre, Kinski, puis l'acteur, le Buffalo Bill dans Silence of the Lambs, là. Il y a beaucoup aussi question de justement de travestie puis de transsexualité puis des genres parce que les gens vont interpréter des fois des personnages d'un autre sexe. Ils vont également changer d'habit pour différentes raisons. Elle, Luz, quand elle arrive au commissariat, elle est habillée vraiment pas comme une femme là, sans vouloir faire de jugement, mais comme elle a plus tôt, elle a cette espèce de vieille casquette blanche par en arrière, son t-shirt gris très ample, puis elle rentrée dans son jean. Elle fait vraiment comme une espèce de petit chauffeur, masculin. Mais c'est ça. Donc, il y a tout un espèce de... Genre, il y a un questionnement sur qu'est-ce qui forge l'identité, puis notamment sexuelle. Est-ce que c'est uniquement l'habit? Est-ce que c'est l'habit qui fait le moine? Est-ce que c'est la posture? Est-ce que c'est la manière qu'on raconte, qu'on parle, qu'on se tient corporellement, qu'on se tient physiquement? Donc, c'est vraiment... C'est ça. Pour un acteur, là, pour ces acteurs-là, c'est tellement un beau cadeau, un film comme ça. Puis, je pense qu'ils ont plongé là, tête première dans le projet, puis qu'ils ont su faire confiance au cinéaste, qui est quand même son premier film, donc c'est tout un exploit. Mm. Et ça donne de quoi qui... Tu sais, comme c'est vraiment des performances où t'as presque l'impression qu'ils sont possédés eux-mêmes. Là. Puis justement, puis c'est pour moi, le parallèle à Grave, il est sur de multiples niveaux, là, notamment genre, l'actrice principale qui a à peu près la même bouille que celle de Garance Marillier dans Grave, là, puis le même âge. Mm. Puis ça aussi, c'est... Tu sais, Grave, je suis pas le plus gros fan, il avait pas été dans mon top 10, mais c'est clair que c'était notamment une très bonne performance d'actrice, de jeune actrice, là. Mm-hmm. Donc voilà, Luz Belief de Hype, si jamais il rejoue, s'il sort en salle, ce serait cool. C'est sûr qu'il va atterrir éventuellement aussi sur les services de streaming et de location. Ouais. Donc vous irez voir ça.
Parfait, c'est une belle conclusion. C'est un beau première moitié de Fantasia. Bravo.
Ouais, parce que là, on est toujours 12, puis il reste 10 jours après aujourd'hui. Ouais. Ben là, ça dépend, le podcast ne sortira pas aujourd'hui, là, mais on est vraiment à moitié de nos visionnements. Fait que,
il reste l'équivalent de tout un FFM encore dans le reste de Fantasia.
Hey, sacrifice. Hey, Paul, tu sais, des fois, tu me faisais des petits shouts, là, genre quand que mon film il apparaissait sur IMDb. Mais sais-tu que si tu vas sur la page IMDb de Luz et que tu regardes les reviews, tu cliques sur les reviews et on voit Point de vue, Paul Landriot, in French. Donc, Paul Landriot, t'es un hyperlien sur IMDb sur la page de Luz, mon chum.
Bon, est-ce que dans les critiques, c'est écrit « boring »
Ouais, c'est ça.
C'est ça qu'on lit sur IMDb.
Non, mais c'est marqué « French », genre, parce que, tu sais, pour que les anglophones fassent attention, là, de pas tomber. D'ailleurs, c'est drôle, il y a que des critiques de d'autres langues. Des critiques en allemand, en espagnol, puis en français. Fait que le film, ben, je pense qu'il a peut-être pas joué du tout.
Non, c'est ça, parce que toi, tu dis qu'il a commencé à Berlin. Ensuite, il joue à Fantasia, mais je sais pas, c'est que ça a été quoi vraiment son parcours?
Il jouait à Neuchâtel, Festival de films fantastiques à Neuchâtel en Suisse. Mm-hmm. Mais
je pense pas qu'il était dans un comme gros festival, entre guillemets. Là. Fantasia, c'est gros, là.
C'est ça. Ben, Berlin. C'est vraiment Berlin.
Ouais,
hein. Ouais. Puis là, probablement qu'ils plaçaient leur pion. C'est sûr qu'ils ont eu des offres, mais pour moi, ils voulaient jouer ça intelligemment. Je pense qu'ils jouent patiente leur run de festival. Ça, ce que ça veut sûrement dire, c'est que le film sortira pas en salle avant, mon Dieu, des mois et des mois et des mois. C'est s'il sort au Canada, puis en salle. Mais en tout cas, tu nous l'as vendu, mon Paul Luz.
Ben, je serais pas sûr. Ben, en même temps, je sais pas trop c'est quoi la politique du FNC par rapport aux premières, là, parce que vu qu'il a joué déjà dans un festival montréalais, est-ce qu'ils vont vouloir le reprendre? Mais en tout cas, ça serait cool de pouvoir le revoir, mais j'ai pas l'impression que ça va se faire au FNC. Mais si jamais ça sort éventuellement, on va vous tenir au courant. Dans quelques jours à peine, dans une semaine, Rémi Fréchette, nord-américaine / internationale du Final Cut de Montréal Dead End.
Faire du bien, ça va faire du bien de le voir avec d'autres gens. Là. Donc, ouais, ça, c'est tellement resté. Il y a personne qui a vu ce cut-là. Je l'ai tellement vécu tout seul la fin de ce film-là que. Là, le voir avec une salle remplie, ça va tellement être plaisant. Là.
C'est j'ai cool. Bien hâte. C'est mardi le 31 juillet à
21h30.
Puis finissons sur un dernier point, parce que je veux tout ramener à moi tout le temps. Là. moi, je serai peut-être pas là le prochain podcast, parce que là, je pars un mois à Natashquam, les amis. Je pars mercredi matin avec Wapikoni Mobile. Fait que je vais être cinéaste accompagnateur avec des Inuits à Natashquam, quand même 15 heures de Montréal de route. Puis pendant un mois, avec un Internet probablement un peu limité et tout ça. Donc, j'imagine probablement que vous allez vous démerder sans moi pour le prochain, peut-être. Puis on en fera un à mon retour vite. Mais je vous annonce ça. Puis, je vais rater la fin de Fantasia. Ouais, Boo-Words, parce que je vais rater Mandy, puis la fin de Fantasia. Mais amusez-vous en mon nom. Puis bon cinéma, tout le monde.
Mais tu pars un mois, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Fait que tu devrais être capable d'attraper l'ouverture du FFM.
Oui, c'est vrai, je vais me reprendre au FFM, je vais aller voir tous les films.
Parfait.
Les films.
Si le lieu, bien sûr.
S'il y a film.
Je vais acheter ma passe, là, ça doit valoir 200$ au moins, une passe de FFM. Bon, OK, over and out.
C'était notre point de vue cette semaine, on va se quitter sur la bande-annonce du film anthologique Montréal d'Éden. Évidemment.
Je savais même pas, c'est une surprise. Merci.
Évidemment. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andréau, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
et Montréal d'Eden, Pascal Plan.
Déjà rendu jusqu'ici.
C'est juste le début. Du savoir-vivre, il va se passer des choses étranges.
I am going to eat you.
Arrête de niaiser, j'ai faim. Ah!
Il n'y a rien qui peut arrêter son arrivée.
Non!
C'est beau, hein? C'est toute la malade qui me fait vivre.